Chapitre 32. Quand Juliana et moi avions 12 ans, nous nous étions trouvé une devise. À quoi servent les amis? C'était comme un mot de passe qui voulait dire que si l'une de nous avait besoin d'un service, le plus souvent pour une affaire embarrassante ou pressante, l'autre devait accepter parce que c'était à ça que servaient les amis. Juliana avait oublié ses exercices de mathématiques? À quoi servent les amis? Lançait-elle devant nos casiers et je me dépêchais de lui donner mes réponses. Mon connard de père refusait que je reste après les cours pour l'athlétisme. « À quoi servent les amis ?» lui disais-je, et Juliana demandait à sa mère de prévenir mon père qu'elle me déposerait chez moi, parce que mon père ne contredisait jamais la mère de Juliana. Juliana s'amourachait du mec mignon en cours de biologie. « À quoi servent les amis ?» Je me faufilais jusqu'à lui pendant le déjeuner pour découvrir si mon ami avait ses chances. J'étais arrêtée pour le meurtre de mon mari. À quoi servent les amis? Samedi après-midi, j'ai cherché le numéro de Juliana. Mon monde était en train de s'effondrer et il m'est apparu que j'avais besoin d'aide. 10 ans avaient passé et il n'y avait toujours qu'une personne au monde à qui je pouvais faire confiance. Alors, quand l'homme en noir est enfin parti, laissant le corps de mon mari sous la neige dans le garage, j'ai cherché le nom d'épouse, l'adresse et le numéro de téléphone de mon ancienne meilleure amie. J'ai appris ces informations par cœur pour ne laisser aucune trace écrite. Ensuite, j'ai fabriqué 2 petits engins explosifs, chargé la Denali et pris le volant. Mes derniers gestes de femme libre. Je le savais déjà. Brian avait mal agi, mais c'était Sophie et moi qui allions payer. Alors j'avais donné 50 000 $ à l'assassin de mon mari pour gagner 24 heures. Du temps dont je tentais désespérément de me servir pour prendre 2 coups d'avance. Dimanche matin, Shane est arrivé et la partie a commencé. 1 heure plus tard, pratiquement tabassé à mort, victime d'une commotion cérébrale et d'une fracture de la pommette, j'étais passée de brillante stratège à femme authentiquement battue, hébétée, désorientée et quelque part, dans un coin de ma cervelle embrouillée, j'espérais vaguement que je m'étais trompée du tout au tout. Peut-être que Brian n'était pas mort sous mes yeux. Peut-être que Sophie n'avait pas été enlevée dans son lit. Peut-être que la prochaine fois que je me réveillerais, mon monde aurait, comme par magie, retrouvé son intégrité et mon mari et ma fille seraient à côté de moi et me tiendraient la main. Je n'ai jamais eu cette chance. Au lieu de ça, je suis restée clouée sur un lit d'hôpital jusqu'au lundi matin, où la police est venue m'arrêter et où le plan B s'est enclenché. Tous les appels depuis une prison commencent par un message enregistré informant le destinataire que cet appel en PCV provient d'un établissement pénitentiaire. Accepte-t-il de payer cette communication? La question à 1 000 000 $, me suis-je dit lundi soir quand dans la salle commune de l'unité de détention, j'ai composé le numéro de Juliana d'un doigt tremblant. Personne n'aurait pu être plus surpris que moi que Juliana accepte. Je parie qu'elle-même a été surprise, et je parie que, dans les 30 secondes qui ont suivi, elle a regretté de ne pas avoir refusé. Comme tous les appels passés depuis la prison sont enregistrés, je suis restée vague. À quoi servent les amis? Ai-je commencé le cœur battant à tout rompre. J'ai entendu Juliana s'étrangler. T'es ça? J'aurais bien besoin d'une amie. Ai-je continué? Vite maintenant, avant que Juliana fasse quelque chose d'intelligent et me raccroche au nez, par exemple. Demain après-midi, je rappellerai « À quoi servent les amis ?» Ensuite, j'ai raccroché parce que le son de la voix de Juliana m'avait fait monter les larmes aux yeux et qu'on ne peut pas se permettre de pleurer en prison. Et aujourd'hui, après avoir mis l'agent Fisk hors de combat, je lui ai pris son téléphone portable et j'ai piqué 100 mètres dans la neige compacte du chemin jusqu'à un immense sapin. Pliant 2 sous son baldaquin de verdure, j'ai rapidement composé le numéro de Juliana tout en récupérant un petit sac étanche que j'avais planqué sous les branches. « Allô ?» J'ai parlé vite. Itinéraire, coordonnées, GPS et liste de fournitures. J'avais eu 24 heures en prison pour planifier mon évasion et je les avais mises à profit. À l'autre bout du fil, Juliana n'a pas discuté. À quoi servent les amis? Elle aurait pu appeler la police si tout raccrochait, mais ça m'aurait étonnée. Parce que la dernière fois que cette phrase avait été prononcée entre nous, c'était Giuliana qui l'avait dite, en me tendant le pistolet avec lequel son frère venait d'être tué. J'ai posé le portable de l'agent Fisk et ouvert le sac étanche. À l'intérieur se trouvait le Glock 40 de Brian que j'avais pris dans notre coffre. Lui n'en aurait plus besoin. Alors que moi. Oui. Le temps que la voiture familiale gris métallisé s'arrête sur la route, mon assurance s'était envolée et j'étais fébrile de nervosité. Le pistolet rentré dans la poche de mon blouson noir, les bras serrés autour de moi, je guettais depuis la lisière du bois avec l'impression d'être très voyante. D'une seconde à l'autre, une voiture de police allait passer dans un hurlement de moteur. Si je ne me planquais pas à temps, l'agent aux aguets m'apercevrait, ferait un demi-tour serré et s'en serait fini de moi. Rester vigilante, courir, se cacher. Alors un véhicule s'est profilé au loin, phare allumé dans la pénombre grandissante. Cette voiture roulait lentement, hésitante, comme si le conducteur cherchait quelque chose. Pas de galerie de toit pour les sirènes, donc c'était une voiture civile, pas une voiture de police. Maintenant, ou jamais. J'ai pris une grande inspiration et je suis sortie sur le bitume. Les phares ont balayé mon visage et la voiture a pilé. Giuliana était arrivée. Je suis rapidement montée à l'arrière. À la seconde où j'ai refermé la portière, elle a démarré sur les chapeaux de roue. Je me suis retrouvée assise par terre et j'y suis restée. Un siège auto, vide, mais à moitié recouvert d'une couverture de bébé, donc récemment occupée. Je ne sais pas pourquoi ça m'a surprise. J'avais bien un enfant, pourquoi pas Giuliana? Quand nous étions petites, nous projetions d'épouser des frères jumeaux. Nous habiterions des maisons voisines et élèverions nos enfants ensemble. Giuliana voulait 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Je prévoyais d'en avoir un de chaque sexe. Elle resterait à la maison avec ses enfants, comme sa mère. Je serais à la tête d'un magasin de jouets où je ferais bien sûr des prix à ses rejetons. À côté du siège auto se trouvait un sac de sport vert foncé. Je me suis mise à genoux, en restant invisible de l'extérieur et j'ai ouvert le sac. À l'intérieur, j'ai trouvé tout ce que j'avais demandé. Une tenue de rechange, entièrement noire. Des sous-vêtements propres, 2 autres hauts, ciseaux, maquillage, casquette noire et gants. $150 en petite coupure, sans doute tout ce qu'elle avait pu réunir dans des délais aussi courts. Je me suis demandé si ça représentait beaucoup d'argent pour la Giuliana d'aujourd'hui. Je ne connaissais que la jeune fille qu'elle avait été, pas l'épouse, ni la mère qu'elle était devenue. J'ai commencé par sortir tous les vêtements noirs et je les ai disposés sur la banquette. À force de contorsion, j'ai réussi à enlever la combinaison orange pour enfiler le jean noir et un col roulé noir. J'ai tire-bouchonné mes cheveux au-dessus de ma tête et posé la casquette sombre dessus. Ensuite, je me suis retournée pour m'observer dans le rétroviseur. Giuliana me regardait. Ses lèvres pincées dessinaient une ligne mince, ses doigts étaient blancs de crispation sur le volant. Nouveau-né, me suis-je dit immédiatement. Elle donnait cette impression. La jeune maman épuisée qui ne dort toujours pas la nuit, légèrement sur les nerfs, qui savait que la première année serait difficile et qui découvre avec surprise que c'est encore pire que ça. Elle a détourné les yeux, regardé la route. Je me suis assise sur la banquette arrière. « Merci », ai-je enfin dit. Elle n'a rien répondu. Nous avons roulé en silence pendant encore 40 minutes. La neige avait enfin commencé à tomber, faiblement d'abord puis suffisamment drue pour obliger Giuliana à lever le pied. À ma demande, elle a mis les infos à la radio. Pas un mot d'un incident impliquant des policiers. Donc Didi Warren et son équipe avaient dû survivre à ma petite surprise et décider de ne pas communiquer sur le sujet. Logique. Aucun policier n'a envie d'admettre qu'il a perdu un prisonnier, surtout s'il pense pouvoir le rattraper d'ici peu. Jusqu'à preuve du contraire, j'étais seule et à pied, donc Didi croyait sans doute me remettre la main au collet en moins d'une heure. Pas fâchée de la décevoir, mais soulagée qu'il n'y ait pas de victime. J'avais fait de mon mieux pour disposer les deux engins explosifs de manière à ce qu'ils explosent vers l'arrière et le tronc couché plutôt que vers l'équipe de recherche. Mais comme je débutais dans le domaine, je n'avais aucun moyen de savoir si ça marcherait. Assise derrière l'agent Fisk, j'espérais et redoutais tout à la fois ce qui allait se produire. La voiture a de nouveau ralenti. Juliana avait mis son clignotant, elle s'apprêtait à sortir de l'autoroute pour prendre la Nationale 9. Elle avait respecté les limites de vitesse pendant tout le trajet, les yeux rivés sur la route, les deux mains sur le volant. La conductrice idéale pour une évasion. Maintenant que nous arrivions au terme de notre équipée, je voyais sa lèvre trembler. Elle avait peur. Je me suis demandé si elle me croyait coupable du meurtre de mon mari. Coupable de l'assassinat de ma fille. J'aurais dû l'assurer de mon innocence, mais je ne l'ai pas fait. Je me disais que personne n'était mieux placé qu'elle pour savoir à quoi s'en tenir. Encore 12 minutes. 12 petites minutes pour remonter le temps. Revenir dans notre ancien quartier. Passer devant son ancienne maison, devant celle minable de mes parents. Juliana n'a regardé aucun des bâtiments. Elle n'a pas soupiré, n'a pas été envahie par la nostalgie, n'a pas prononcé un mot. 2 derniers virages, et nous y étions. Le garage de mon père. Elle s'est rangée, a éteint les phares. La neige tombait à gros flocons maintenant, recouvrait le monde noir d'un linceul blanc. J'ai fini de rassembler mes affaires et je les ai rangées dans le sac de sport que j'allais emporter avec moi. Ne laisser aucune trace derrière soi. Quand tu rentreras chez toi, ai-je dit d'une voix étonnamment forte dans le silence, dilue de l'ammoniaque dans de l'eau chaude et nettoie la voiture avec. Ça effacera les empreintes digitales. Juliana m'a de nouveau regardé dans le rétroviseur, toujours sans dire un mot. La police va remonter jusqu'à toi. Elle va se concentrer sur le coup de fil que je t'ai passé hier soir depuis la prison. C'est une des seules pistes qu'ils aient, donc ils vont la suivre. Dis la vérité. Ce que j'ai dit, ce que tu as dit. Toute la conversation a été enregistrée, donc tu ne leur apprendras rien et nous n'avons rien dit de compromettant. Juliana m'a regardée, toujours silencieuse. Ils ne devraient pas pouvoir remonter la piste de l'appel d'aujourd'hui, lui ai-je dit. Notre seul point de contact a été le portable d'une tierce personne et je vais le passer au chalumeau. Quand j'aurai fait fondre ses circuits, il ne pourra plus parler, donc cet après-midi, tu es parti faire une promenade en voiture. J'ai fait exprès de choisir un itinéraire sans péage, donc ils n'auront aucun moyen de savoir où tu as été. Tu as pu aller n'importe où, pour faire n'importe quoi. Donne-leur du fil à retordre. Il allait sans dire qu'elle tiendrait le coup devant les questions de la police. Ce ne serait pas la première fois. Nous sommes quittes, a-t-elle brusquement répondu d'une voix monocorde. Ne m'appelle plus. Nous sommes quittes. J'ai souri, tristement, sincèrement désolée. 10 ans que nous gardions nos distances, et nous aurions continué sans ce samedi matin où mon stupide mari était mort dans notre stupide cuisine. On dit que les liens du sang sont les plus forts. Mais notre amitié l'avait emporté, et j'avais donc fait à l'époque ce que je savais nécessaire pour Juliana, quitte à en souffrir. Je referais la même chose, ai-je dit tout bas en la regardant dans les yeux par l'intermédiaire du rétroviseur. Tu étais ma meilleure amie. Je t'aimais. Et je referais la même chose. Tu l'as vraiment appelée Sophie ? La main sur la bouche, Juliana Sophia McDougall, née a fondu en larmes. J'ai mis le sac de sport sur mon épaule et je suis sortie dans la nuit enneigée. Encore un instant, et le moteur a démarré. Puis les phares se sont allumés et Juliana est partie. Je me suis dirigée vers le garage de mon père. À voir les lumières, je devinais qu'il m'attendait déjà.